C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui analyse l'impact des mots, du langage et des discours sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant au cœur des enjeux numériques et de la lutte contre la désinformation, la décision du groupe Meta de mettre fin à son programme de vérification des faits aux États-Unis, une mesure qui suscite beaucoup de réactions, n'est-ce pas, Babel?
Absolument, Pauli. Meta, le géant derrière Facebook, Instagram et WhatsApp, a récemment annoncé la fin de son programme qui permettait de vérifier les faits sur ses plateformes. Cette décision intervient dans un contexte politique particulier aux États-Unis, marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon Meta, les fact-checkers seraient devenus trop politisés, ce qui aurait érodé la confiance du public.
Jusqu'ici, Babel, Meta collaborait avec plus de 80 médias et organisations à travers le monde pour justement vérifier les informations publiées sur ces plateformes. Aux États-Unis, désormais, ce seront les utilisateurs eux-mêmes qui ajouteront des notes de contexte sur les publications postées sur les réseaux sociaux.
Oui, et c'est un système inspiré de celui du réseau social X, anciennement Twitter. Mais si ce changement venait à s'étendre à d'autres régions comme l'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, quelles en seraient les répercussions?
C'est une question essentielle, hein, surtout dans un pays comme la RDC, où le faible taux d'alphabétisation limite le développement de l'esprit critique de nombreux internautes vis-à-vis de contenus diffusés sur les réseaux sociaux.
Et c'est justement ce que nous allons voir dans cet épisode. Mettre fin au programme de vérification des faits pourrait ouvrir la porte à une diffusion massive d'informations non vérifiées au nom d'une certaine conception de la liberté d'expression. Dans un contexte comme celui de la RDC, où les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans l'accès à l'information, les conséquences pourraient être lourdes. Nous allons donc analyser l'impact potentiel d'une telle mesure sur la lutte contre les fausses informations, souvent vectrices de discours de haine.
Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. La première est Ange Kasongo, elle est journaliste et auteure du livre « La démocratie congolaise à l'ère des réseaux sociaux, des fake news et de la manipulation ». Elle est également la fondatrice de Balobaki Check, une plateforme dédiée à la lutte contre la désinformation en République démocratique du Congo. Bonjour Ange et merci d'être avec nous.
Bonjour Polly, bonjour Babel, merci.
Nous recevons également Didier Mokaleng-Makal, docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est spécialiste des interactions sur les plateformes digitales et également enseignant à l'université de Lubumbashi. Bonjour Didier Mokaleng-Makal et bienvenue.
Bonjour madame, bonjour à tous. Salutations à Ange.
Merci d'être là, hein, Didier. Avant d'ouvrir le débat, place à notre premier sketch radiophonique. Cette scène nous plonge dans une discussion entre étudiants autour d'une information douteuse partagée sur les réseaux sociaux. On écoute.
Allez mes gars! Wow! Mouta! Tu as vu? Mais quel match!
Amani, notre équipe est super! Mais regarde! Mais tu sais quoi? Je n'ai aucune peur! La victoire là sera nôtre!
Wow! Non! Mais encore un but raté! Et vous, Mbouye Kitoko? On est ici pour suivre les matchs, pas rester concentré sur vos téléphones!
Sérieusement?
Allez, rangez vos téléphones et suivez les matchs!
Mais regarde! Oui, c'est donc ça que tu faisais sur ton téléphone. Vraiment quoi? Amani, regarde les conneries que Mboui vient de publier sur sa page Facebook.
Fais-moi voir.
Regarde.
Quoi? Comment peut-il proférer de telles graves insultes sur notre équipe?
C'est quoi ces bêtises là?
Mais tu viens d'écrire que nos joueurs sont comme des chenilles. Que ce qu'ils savent faire, c'est juste ramper mais pas jouer au football.
Hein, quoi ça? Et alors, il y a quoi d'étonnant dans ce que j'ai écrit là? Apprenez désormais à supporter des vérités crues.
Oui, juste parce qu'ils ont raté un but, as-tu vraiment pesé tes mots avant de poster du n'importe quoi? Et en plus, tu oses insulter notre équipe en disant qu'ils sont nuls et bêtes.
Mais pourquoi tu t'agites comme ça?
Vraiment, trop agité.
Je suis agité.
Je te rappelle qu'on n'est plus au temps où nous étions muselés sans avoir les droits de dire librement et tout haut ce que nous pensons.
Eh oui, la liberté d'expression est un droit. Oui. Avant tous les autres, nous devons désormais en jouir pleinement.
Non, vous vous trompez. Il y a des règles à respecter.
Oh, quelles règles à respecter?
Notamment pour empêcher la prolifération des conneries que vous écrivez.
Des règles?
Oui, c'est ce que vous écrivez là, des conneries.
Attends, tout ça c'était pour nous censurer. Mais plus maintenant, le moment de la liberté de tout dire à l'état brut, sans avoir peur et sans retenue sur les réseaux sociaux est finalement arrivé.
Bouy, aide-moi à trouver des mots poignants.
Ma chérie,
pour que je fasse aussi un post et dire ce que je pense de cette équipe des bonnes à rien.
On est là pour ça, je vais t'aider.
Vous êtes sérieux là?
As-tu vraiment pesé tes mots avant de poster n'importe quoi? Demande l'un des personnages dans ce sketch. Ange Kasongo, ma première question est pour vous. Comment les informations qui circulent sur le cyberespace congolais sont-elles vérifiées? Quelles structures sont en charge de cette mission, Ange Kasongo?
Merci Polly pour la question. Ben, en RDC, la collecte des affirmations douteuses sur les réseaux sociaux ou l'espace numérique, c'est fait essentiellement par les journalistes. D'abord de manière globale dans la pratique traditionnelle du métier, parce que la vérification de faits vient a posteriori, mais a priori, les journalistes vont sur les terrains et ça va aussi de soi de partir sur une affirmation, un sujet qui fait l'actualité dans la communauté pour éclairer l'opinion. Donc les journalistes font ce travail-là, mais aussi dans la communauté, il y a des leaders d'opinion qui, à travers des discussions dans des focus group, participent aussi à démanteler, à lutter contre les fausses informations. Et puis, depuis 2018, en RDC, il y a eu la montée non seulement des fake news à l'époque de la riposte Ebola dans l'Est, qui a vu justement la naissance du premier média de vérification de faits en RDC, qui est Congo Tchèque. Et ça a aidé aussi la communauté à avoir accès direct à la bonne information.
Alors, à la suite de Congo Tchèque, vous l'avez dit, d'autres organisations de vérification des faits sont apparues par la suite, y compris la vôtre, Balobaki Tchèque. Comment est-ce que des organisations comme la vôtre s'y prennent-elles pour vérifier des informations publiées, par exemple, dans des langues locales comme le Kikongo, par exemple?
Nous, à Balobaki Tchèque, nous travaillons avec les radios communautaires. Donc, les radios communautaires sont les plus écoutées aussi dans les provinces et ça permet de transférer l'information en langue locale. Et en partenariat avec les journalistes des radios communautaires, on arrive à avoir une sorte de partenariat d'échange d'affirmations qui circulent en langue locale et qui circulent aussi en français.
Merci Ange Kasongo pour toutes ces précisions. Nous voyons que derrière, en ce qui concerne la vérification d'informations, vous avez parlé de journalistes, vous avez parlé de leaders d'opinion, des médias également, des vérifications des faits. Et derrière, il y a tout un réseau qui aide à ce travail-là. Merci donc pour ces précisions. Je me tourne à présent vers vous, docteur Didier Mukalengmakal. Comment peut-on éviter que des paroles dangereuses ou haineuses échappent au contrôle des organismes chargé de la vérification des faits sur les réseaux sociaux?
Oui, comme le disait Ange, jusqu'ici, le modèle qui s'est imposé, c'est celui du travail journalistique au départ. Mais il s'est avéré que les journalistes ne sont pas les seuls capables de détecter de la désinformation. Il arrive très souvent sur les plateformes digitales qu'une personne se rende compte qu'une affirmation n'est pas correcte venant de n'importe qui ou d'un commentaire sous une publication des médias et celui-là alerte soit les modérateurs si c'est une plateforme avec un modérateur ou interpelle l'auteur de cette désinformation. Ça, c'est vraiment la situation la meilleure où on compte sur la co-responsabilité, la responsabilité au niveau latéral entre utilisateurs, les pairs. Puis, il y a cette modération qui vient des plateformes elles-mêmes qui peut aider. Par exemple, Facebook et les autres ont établir un système d'identification, soit automatique, soit par des signalements. Et c'est pratiquement la plupart des réseaux sociaux qui ont prévu un tel modèle pour signaler la désinformation. Il appartient encore une fois de plus aux utilisateurs de signaler un contenu dangereux ou mensonger, de sorte qu'il soit pris en charge par des spécialistes. Probablement, le modèle, à mon avis, qui me semblait jusque-là plus plausible, c'était celui de la responsabilité collective, c'est-à-dire que les gens intègrent que la désinformation est dangereuse, les fausses nouvelles sont dangereuses et que, prenant conscience, qu'on puisse agir ensemble pour faire reculer autant que possible la désinformation.
Didier Moukaleng Makal, un médecin justifie sa décision de mettre fin à son programme de vérification des faits en affirmant que les fact-checkers seraient biaisés politiquement. Est-ce qu'on peut, en dire autant des plateformes de vérification des faits qui opèrent en République démocratique du Congo?
Ah, c'est tout un défi parce que c'est possible que cela se rencontre aussi en République démocratique du Congo, mais est-ce qu'il existe simplement une instance qui ne soit pas politisée dans le monde? On a à un certain moment justement une sorte de polarisation, mais même les médias traditionnels, pour ne pas simplement prendre le cas des fact-checkers, à un certain moment subissent des influences politiques, mais ça c'est de la sociologie des médias. Chaque société a ses limites dans le travail des journalistes, et donc en République démocratique du Congo justement, on peut arriver que à un certain moment dans le travail des analystes ou des fact-checkers, on trouve des failles de ce genre-là, mais au niveau global, c'est quand même un peu surprenant, et c'est pour ça que certains pensent que on a fait. Le patron de Facebook a voulu simplement s'aligner sur une idéologie politique ou un camp politique ou simplement se protéger des possibles représailles.
Merci Didier Moukaleng pour ces analyses. Passons à présent à notre deuxième sketch radiophonique qui nous replonge donc dans un environnement universitaire, toujours avec nos amis les étudiants. Cette scène illustre bien les conséquences de la propagation de contenus non vérifiés sur les plateformes digitales. On écoute.
Écoutez, si vous postez encore ce genre de conneries,
quoi?
J'informerai les propriétaires de la plateforme et vos comptes seront suspendus.
Oui, je vous l'ai dit. Arrête de me faire. Toi comme qui, hein?
Attends, tu crois que je n'ai pas le droit de dénoncer vos dérapages?
Ah, la droite?
Quel droit, papa? Ces temps-là de tout vérifier online est révolu, mon ami. Ce genre de menaces pouvait fonctionner avant.
Avant?
Mais pas maintenant, que le temps de la liberté d'expression et de retour.
C'est quand même inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a donc plus de structure qui doit vérifier toutes ces informations qui sont postées.
Qu'est-ce que tu en sais, toi?
Parce que j'ai l'impression que pas mal de mensonges et de fausses informations circulent ces jours-ci.
Je comprends que tu aurais souhaité qu'on soit muselé. Mais désolé, hein, parce que tu ne pourras rien y faire. Rien.
Attendez, par respect envers tous ces consommateurs du contenu sur les réseaux sociaux et les personnes visées par ces messages, je vais tout faire pour vous empêcher de publier ces incontournables.
On verra.
On va voir.
Où tu dis, mon ami, n'allez pas publier ça. Hein? Mais regarde, c'est mon téléphone, mes forfaits internet que j'utilise.
Mais ce sont
personne n'a le droit de m'empêcher
tu
quoi que ce soit.
Vous avez entendu prononcer ces paroles.
C'est son téléphone,
mais c'est des mauvaises paroles.
Oh mon Dieu! N'importe. Vous avez vu? Il y a des étudiants qui se mettent à lancer des pierres dans les stades.
Mais vous voyez maintenant?
L'arbitre a dû suspendre le match.
Il a une pierre!
Apparemment, la situation devient grave.
J'ai l'impression que pas mal de mensonges circulent sur cette plateforme, fait remarquer l'un des personnages. Didier Moukaleng Makal, quelles pourraient être les conséquences en RDC si, comme aux États-Unis, on arrêtait de vérifier les informations publiées sur les réseaux sociaux?
C'est une grosse question, mais intéressante. Qu'est-ce qui arrive? C'est que finalement, tout nous ramène pratiquement à un des concepts qui émergeait déjà pratiquement au même moment que un peu plus tôt avant l'émergence du mot de fake news. avant l'apparition du fake news, il y a un mot qui a circulé largement. On parlait de la carrément de la vérité, je veux dire, relative, comme si la vérité dépendait de n'importe qui, de tout le monde. Tout le monde avait raison, tout le monde avait tort, disons de manière caricaturale. Dans un pays comme le nôtre, où le niveau de compréhension de tous les enjeux autour de la désinformation, ce n'est pas très élevé et accessible pour la majorité de la population. Je pense que les théories complotistes vont fleurir. La désinformation va faire le lit de la violence parce que nous sommes encore dans une situation sociopolitique fragile où une désinformation peut facilement mettre les gens dans la rue. Dans un pays comme le nôtre, ça va être quand même assez préoccupant.
Merci Didier Mokaleng Makal. Donc si on est arrêté, par exemple, on a arrêté de vérifier les informations publiées sur les réseaux sociaux, les théories complotistes vont davantage se développer, la désinformation également. Merci pour votre contribution. Alors Ange Kasungo, je me tourne vers vous. Vous qui travaillez dans le domaine de la vérification des faits en RDC, le pays fait face à de nombreux conflits identitaires et ethniques. Si les informations diffusées sur les plateformes digitales ne sont pas vérifiées, est-ce qu'il existe un risque supplémentaire de propagation de fausses nouvelles et de discours de haine en ce sens?
Merci, mais avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur la manière dont les vérificateurs de faits, donc les fact-checkers, travaillent, comme venait de parler le professeur, le docteur au bout du fil. En fait, la manière de travailler des journalistes, donc le journalisme traditionnel et la vérification de faits n'est pas la même chose. Donc, en fait, le fact-checking se base sur une sorte de une liste de principes fondamentaux qui permet le fonctionnement de leurs médias. Donc, on s'engage d'abord pour la transparence dans la rédaction des articles. On s'engage pour la transparence même des fonds. Donc, quand on écrit un article de vérification de faits, la manière pédagogique de l'écrire ne consiste que à éclairer l'opinion. Et donc, il n'y a pas vraiment la place à une influence politique et à équilibrer les sources aussi. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus pour qu'on n'ait pas de, pour que les auditeurs n'aient pas une confusion entre le journalisme et la vérification de faits. Pour les questions liées au conflit
identitaire et ethnique,
c'est vrai que récemment, en décembre 2024, nous avons tenu une formation à Lubumbashi, Baloba Kitchek, et c'était un peu un endroit assez tendu, où on sent tout de suite la tension entre les communautés kassaïennes et katangaises. Il est vrai que dans ce genre de formation ou des échanges, au-delà de la désinformation, il y a justement la présence des discours de haine. Or, les discours de haine, jusqu'ici, ne sont pas... il n'y a pas de réglementation derrière les discours de haine. C'est ça qui est dangereux. Nous avons une réglementation en lien avec les faux bruits, comme on l'appelle dans le code du numérique, donc qui fait allusion à la désinformation. Mais les discours de haine va plus loin parce qu'elle pousse à l'action violente, physique et divise les communautés. La désinformation peut juste embrouiller les gens, discréditer un adversaire, mais les discours de haine sont beaucoup plus dangereux pour la paix sociale et la cohésion nationale.
Merci Ange Kasungo pour cette analyse. Pour conclure, écoutons un troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois-ci, nos amis les étudiants prennent conscience des dangers d'une liberté d'expression sans limite et sans mécanisme de vérification sur les réseaux sociaux. On écoute.
Attention, attention, tu es une pierre. Et tu serre ici. Et cache-toi. Il y a des pierres qui viennent encore dans l'autre direction.
Tommy, attends. Est-ce que tout ça, c'est à cause de ce message qu'on venait de poster? Oh, mais Mbouyi, on fait comment maintenant? On fait comment?
J'ai mon manager quoi, Zato. Je n'ai pas quoi dire.
Mais tout ça,
il faut peut-être qu'on retire vite les messages que nous avions postés.
Ce n'est pas la peine.
Comment?
C'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait, vous ne pouvez plus rien y changer à ça.
Non, mais ça peut s'arranger.
Ça peut s'arranger.
J'avais tellement envie de faire du bruit sur les nets pour avoir des likes. C'est pour ça que j'ai voulu poster ces messages sensationnels. Mais bon, je ne m'attendais pas que ça allait avoir une telle réaction.
Sauvage, vraiment. Donc pour toi, la liberté d'expression signifie lancer des paroles de haine, des insultes ou faire de la désinformation? Parce qu'aucune structure s'occupe de vérifier, on peut tout dire, c'est ça?
Je pense à mon avis que la liberté d'expression devrait plutôt être prise comme un appel à la responsabilité collective face à un contenu à partager.
Je suis d'accord avec toi. Sans aucun mécanisme qui vérifie les infos que nous postons, chacun devrait être responsable pour savoir quoi poster en respectant les autres.
Les amis, soyons prudents. On a vu comment ça risque de déraper vite. Quiconque prévoit de publier quoi que ce soit devrait déjà peser les conséquences de son post sur la communauté.
Sans aucun mécanisme pour vérifier les infos, les informations que nous postons, chacun doit être responsable de ce qu'il partage en respectant les autres, conclut l'un des étudiants. Ange Kasungo, dites-nous comment des plateformes comme Baloba Kitchek contribuent-elles à développer l'esprit critique des internautes et à renforcer l'éducation aux médias?
Alors ça, c'est encore un challenge aussi pour nous à Balobaki, c'est de réfléchir à l'innovation. L'innovation, c'est pas seulement dans la rédaction éditoriale, parce que on sait bien que l'accès à Internet n'est pas ouvert à toutes les couches de la communauté. C'est pour ça que nous favorisons beaucoup le travail avec les radios communautaires. Et surtout, à Balobaki Tchèk, les journalistes sont basés dans plusieurs provinces. Donc, on a au moins la richesse linguistique dans la rédaction. Et le travail avec la radio communautaire permet d'expliquer aux membres de la communauté comment nous sommes arrivés à trouver ou à fact-checker un fake news, donc à vérifier un fait. Et derrière ça, on explique aussi une sorte de sensibilisation, pourquoi c'est important de vérifier une information avant de la diffuser. Donc ça, c'est un élément qu'on fait pour l'éducation aux médias. Nous aimerons faire plus, par exemple, pourquoi pas sensibiliser les enfants dans les écoles au niveau basique, ce serait déjà important. Nous faisons aussi de la newsletter dans les groupes WhatsApp parce que WhatsApp est vraiment très utilisé, donc il faut y mettre aussi du contenu.
Est-ce que la solution ne serait pas plutôt aussi entre les mains des internautes eux-mêmes, comme c'est le cas actuellement avec X et désormais sur Facebook aux États-Unis, les utilisateurs de ces plateformes sont invités à ajouter des notes de contexte sur des publications postées sur les réseaux sociaux. Et cela pourrait aboutir à quel résultat si c'est appliqué en RDC?
Ben, je pense que c'est là qu'on va encourager le désordre de l'information parce que, vous savez, déjà ici en RDC, parfois, il suffit d'une fausse information où on vous dit « Mais oui, j'ai appris ça sur Internet. » Mais Internet, c'est qui? Internet, c'est pas une source fiable. Sur Internet, on peut aussi tomber sur des articles ou des affirmations qui sont complètement faux. Donc, ça va vraiment renforcer un désordre d'information. C'est plutôt de réfléchir à quels sont des types de programmes, quelles stratégies, que ce soit les autorités, que ce soit la société civile, que ce soit les médias qui travaillent dans la vérification de faits, pour en mettre en œuvre dans la communauté pour s'assurer que les gens aient accès à une information fiable.
Merci Ange Kasungo. Pour finir, je me tourne vers vous, Didier Mukaleng-Makal. Au-delà de l'éducation aux médias et des efforts de modération déjà mis en place sur certains réseaux sociaux, que peuvent faire les plateformes digitales et même les pouvoirs publics pour garantir l'intégrité des informations en ligne?
Moi, je vais dire vraiment quelque chose qui me tient à cœur là-dessus, puisque c'est fondamental. Je pense qu'en dehors de l'éducation aux médias et de tout ce que Ange a dit, je pense qu'il faut retourner vers le journalisme pur et simple. Ce n'est pas que le journalisme soit une panacée, la solution à tous les problèmes, mais qu'est-ce qu'il représente au niveau sociétal? C'est un gage de confiance. Je pense qu'on a institutionnalisé le journalisme comme gage de confiance. Dès l'instant où ce travail d'information ne garantit plus la confiance, tout part en vrille. Le problème, c'est que on a voulu à un certain moment mettre tout sur le dos de la vérification des faits. En fait, ce n'est pas non plus une panacée. La vérité n'éclate qu'en combinaison de plusieurs éléments à la fois. Que les gens soient éduqués, qu'ils développent l'esprit critique et qu'ils soient éduqués aux médias, qu'ils sachent comment utiliser les médias.
Alors, c'est pourquoi moi, je pense que si le travail de confiance est fait, pas simplement par les journalistes, mais les journalistes de cette institution censée créer la confiance, comme Ange l'a dit, en s'appuyant sur la radio qui reste le média le plus écouté, plus qu'Internet, il est possible que ce journalisme pur et simple aille au-delà de dire « ceci est faux, ceci, cela est vrai » pour apporter du contexte dont on a parlé, à votre collègue, madame m'a parlé tout à l'heure, du contexte apporté à l'information. Parfois, il n'y a pas de contexte et le travail de vérification de faits se limite à ce schéma-là, vrai ou faux, comme si toute la vie se ramenait au vrai et au faux. J'aime bien le travail de, formidable de vérification des faits, mais il va falloir qu'à un certain moment, on aille loin. Si vous regardez la structure même des articles de déconstruction des informations, c'est à peine que certains médias apportent du contexte. Mais sans le contexte, tout devient encore compliqué. Si vous suivez le thème de la confiance des médias, les médias dans le monde, je pense qu'il y a une étude de Reuters Institute, je pense si je ne me trompe pas, qui montre que la confiance est toujours en baisse dans le monde. Les gens ne font pas confiance parfois aux informations qui viennent des médias. Et donc, à mon avis, restaurer la confiance des médias comme institution qui nous apporte l'information fiable, c'est une des parties des solutions, mais tout ne peut pas reposer sur le seul journalisme. Je pense qu'il va falloir justement qu'on encourage les gens à l'esprit critique, à une éducation aux médias comme le fait Baloubaki, je pense, de Ange et les autres qui font de la lutte contre la désinformation. Je pense qu'il y a aussi iVerify qui a été lancé à l'université de Lubumbashi qui fait le même travail. Mais quand le travail de vérification des faits se compte par d'autres médias qui prennent en relais cela, je pense qu'on amplifie tout ce travail-là, il devient beaucoup plus visible.
Merci Didier Moukaling. Hein, voilà qui nous permet de conclure cette émission. Ce débat nous a plongé au cœur d'un enjeu de plus en plus croissant dans notre société, la responsabilité collective face à l'intégrité des contenus publiés sur Internet. Dans un monde où les réseaux sociaux s'imposent de plus en plus comme source d'information, la vérification des faits n'est pas toujours un luxe, mais bien souvent une nécessité, Babel.
Oui, Polly, la décision de Meta de mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis soulève de sérieuses questions sur l'avenir de la lutte contre la désinformation, mais elle ouvre aussi des perspectives pour responsabiliser davantage les utilisateurs des réseaux sociaux.
Ce que nous retenons, c'est que la désinformation et la propagation des discours de haine constituent des défis qui exigent des efforts conjoints. Les plateformes digitales, les gouvernements, les médias, mais aussi les citoyens, chacun a un rôle à jouer pour construire un espace numérique plus sûr et plus respectueux de la dignité humaine.
Merci encore une fois à nos invités Ange Kasungo et Didier Moukaling-Makal pour vos analyses. Merci également à Debs Vita qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Et bien entendu, merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le temps qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.
Avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 sur les ondes de Radio Okapi ou le réécouter en podcast sur notre site internet www.radiookapi.net ainsi que sur www.abarirdc.net.
Nous vous invitons également à partager vos réflexions et commentaires sur nos pages Facebook, X, anciennement Twitter, de Radio Okapi et Abari RDC. Merci à tous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Capital.